Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
La virginité de Marie, c'est l'article 496 du catéchisme, puisque nous sommes actuellement à parler, discuter sur Marie, sa place dans l'histoire du salut. Et évidemment, quand je lis ça, ça me revient toujours un épisode. Il y a de nombreuses années, j'étais encore un jeune frère dominicain et nous avions une lecture continue avec un groupe biblique, lecture continue de l'Évangile selon saint Luc. Et dans le début, quand il était question d'une vierge, là, évidemment, quelqu'un s'est opposé, dit « mais ça, c'est des fables, ce n'est pas possible ». Il y a pour bien des gens, et bien des gens qui se disent croyants par ailleurs, c'est la question qui est surtout là, cette impossibilité de poser la virginité de Marie, la naissance de Jésus, de Marie vierge, avec son intervention d'un homme. Et en même temps, sans cela, on ne comprend pas ce Jésus, fils de Dieu, cette deuxième personne de la Trinité. Comment bien poser les choses de cette virginité de Marie ?
Oui, ce qui est étonnant, c'est dans cette contestation qu'on lit par exemple chez un contemporain, Jacques Duquesne, par ailleurs, il n'y a pas de contestation qui ne se généralise pas, c'est-à-dire que à partir du moment où on nie un miracle, on finit par nier tous les miracles. C'est une tendance déiste que l'on rencontre chez Arnac et après son disciple bien-aimé Rudolf Bultmann, qui est le père de l'exégèse historico-critique allemande, qui a finalement dit tous les miracles de l'Ancien et du Nouveau Testament peuvent s'expliquer naturellement. Donc il n'y avait plus de place au miracle. Alors on se demande pourquoi tout l'Évangile en est rempli, si ce n'est pour nous aider à croire, car l'intervention toute puissante de Dieu dans l'histoire montre bien que c'est lui le maître de l'histoire, la clé de l'histoire. Et lorsque Jésus rentre les portes closes pour rencontrer les disciples, il n'a pas utilisé un souterrain secret pour aller les voir. Il a vraiment utilisé sa toute-puissance de ressuscité pour rencontrer les disciples. Et curieusement, ce miracle de Jésus ressuscité qui rencontre les disciples porte close, ça fait moins de difficultés aux gens. Mais c'est le même Jésus qui pouvait très bien, dès les premiers instants de sa vie, nous manifester qu'il n'était pas un simple homme, qu'il était en même temps Dieu, vrai homme certes, mais vrai Dieu en même temps. Et cette virginité de la Vierge Marie, pour nous, est très importante. Elle a été gardée précieusement depuis la plus haute antiquité, depuis saint Ignace d'Antioche, saint Irénée, les premiers écrivains ecclésiastiques. Et puis, c'est l'Écriture, si vous voulez, parce que Matthieu chapitre 1, verset 23, reprend une prophétie d'Isaïe au chapitre 7, verset 14, dans la forme grecque, c'est-à-dire celle des Septante. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. » C'était une prophétie d'Isaïe. Cette prophétie, évidemment, on pourrait dire que le texte hébreu utilise le mot « alma » qui peut être traduit par « vierge » mais aussi par « jeune fille », et donc la prophétie n'était pas si précise que cela. Mais où serait le miracle, où serait le signe quand une jeune fille enfant, oui, conçoit et enfante? C'est la vie de tous les jours, donc c'est absolument pas un signe. Et c'est évident que le traducteur des Septante, de 150 ans environ avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, a traduit à bon escient la Vierge. Sinon, il n'y aurait absolument pas un signe. Demande un signe, dit le prophète au roi Akaz. Et comme il refuse de recevoir ce signe, eh bien, de demander ce signe, à ce moment-là, le prophète lui annonce que la Vierge concevra et enfantera un fils. Et c'est ce qui est arrivé. C'est l'interprétation de saint Matthieu. Et Matthieu, c'est la parole de Dieu. Donc, la tradition, je dirais, orthodoxe, catholique et protestante, a toujours tenu que la Vierge Marie était vierge au moment de l'enfantement. Et cela nous convie à comprendre que Dieu fait toute chose nouvelle, selon l'expression de l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il s'agit de reprendre les choses à zéro dans le principe et de nous donner une conception virginale dans le sein de la Vierge Marie, déjà est un signe extraordinaire, et en plus le fait que Marie est enfantée dans la virginité, son enfant Jésus, vous voyez, parce que déjà elle reçoit Jésus dans la virginité, il n'y a pas eu introduction d'une semence masculine. Elle a été ainsi gratifiée d'un don surnaturel pour que de son sein naisse Jésus. Il y a eu un apport miraculeux pour que les cellules de la Vierge Marie puissent accueillir la semence qui miraculeusement a rendu la Vierge Marie féconde. Et l'enfant Jésus a donc grandi dans le sein d'une vierge. C'est admirable, c'est vraiment un début de création, hein, de nouvelle création. Et au moment de la naissance, eh bien, elle est restée, disent les pères, toujours vierge. Nous l'avions déjà signifié avec le texte de saint Ignace d'Antioche en disant « Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie » et son enfantement, donc cette virginité qui est au moment de la conception de Jésus et l'enfantement de Jésus à partir du sein vierge, toujours vierge de la Vierge Marie, de même que la mort du Seigneur, trois mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. Et ce silence de Dieu nous renvoie à l'épître aux Romains qui nous parle de ce silence de Dieu, qui nous parle de la rédemption qui nous est donnée gratuitement à partir de ce silence de Dieu. Il est frappant de nos jours de voir que ce sont ces trois mystères retentissants sont particulièrement, je dirais, mis en situation d'abord de refus de certains, mais aussi dans ce que notre situation, je dirais, morale de notre civilisation se voit contestée dans ces trois dimensions. Et je veux dire la contraception par rapport à le premier des mystères, la virginité de la Vierge Marie qui a conçu dans sa virginité, l'avortement qui s'attaque aux naissances, et puis l'euthanasie qui s'attaque au troisième mystère de la mort du Seigneur à travers des hommes et des femmes qui mettent fin à leur vie d'une manière, je dirais, volontaire et non pas d'une manière abandonnée comme le Seigneur sur la croix. Donc c'est assez frappant de voir que les trois mystères retentissants dont parle saint Ignace ont comme un pendant aujourd'hui qui font que les trois sont attaqués d'une certaine manière à travers la thématique de la contraception, de l'avortement et de l'euthanasie. Je trouve ça assez frappant que saint Ignace les a réunis et que, pas de chance, ils sont de nos jours particulièrement un objet de contradiction pour les chrétiens qui veillent sur ces mystères et qui les magnifient dans l'histoire, je dirais, des chrétiens.
Oui, trois mystères retentissants, comme dit saint Ignace. Et Marie, toujours vierge, évidemment, la contestation se fait aussi pour certains chrétiens sur cette question, mais pourquoi tenir que Marie est toujours vierge ? Ceci s'est fait dans la tradition, enfin en tout cas récemment, peut-être déjà aussi par le passé du reste. On s'est pris à dire, ah oui, mais il y a les frères et sœurs de Jésus qui sont mentionnés dans l'Écriture, tout en sachant que c'est la culture dans laquelle on se trouve tient pour autrement les choses. Mais je trouve important que le catéchisme nous ramène aussi à bien dire Jésus, fils unique de Marie, mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Et c'est vrai que dans la spiritualité chrétienne, on aime à rappeler, Marie est mère de Dieu, elle est mère des hommes, de tous les frères et sœurs de Jésus que nous sommes nous-mêmes dans l'acte de foi.
Oui, alors d'une part, c'est vrai que la tradition dit bien que Marie est aei parthénos, toujours vierge, comme disent les Grecs, et que... Sur le manteau de la Vierge Marie, il y a les trois étoiles, hein, un sur sa tête et les étoiles sur les deux épaules, pour rappeler cette vérité de foi que Marie est vierge avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement. Après l'enfantement, c'est peut-être le point qui a été le plus contesté, même assez primitivement à l'époque de saint Augustin, puisqu'il a été obligé de se battre dessus. Mais saint Augustin a bien montré que lorsque l'on parle des frères de Jésus, en particulier Jacques et Joseph, frères de Jésus, on voit par ailleurs qu'ils sont les enfants de Marie, hein, dans l'évangile de saint Matthieu, et que cette Marie est appelée l'autre Marie. Et donc, autre Marie par rapport à la mère de Jésus, évidemment. Matthieu, chapitre 28, verset 1. Et donc, on peut bien comprendre que ce mot de autre Marie renvoie à quelqu'un d'autre dans cette expression des frères, donc des cousins, hein, de Jésus. D'ailleurs, en grec, adelphos, adelphé, signifie aussi bien frère ou sœur que cousin, cousine.
Oui. Eh bien, frère Édouard, merci.
À bientôt.
À bientôt.